Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour et bienvenue en 2021 sur France 24 et Radio France Internationale. Encore très bonne année à tous. L'année européenne commence sur un reconfinement européen et une campagne de vaccination polémique dans de nombreux pays. Le commerce est particulièrement impacté par la pandémie et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir pour en parler Franck Riester, bonjour. Vous êtes le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de la France.
Avant de vous occuper du commerce extérieur, vous avez été ministre de la Culture pendant 2 ans dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Vous êtes originaire de la même famille politique, celle des Républicains, dont vous avez été exclu en 2017. S'occuper du commerce extérieur en France, c'est souvent gérer les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire un déficit chronique depuis le début des années 2000. C'est aussi défendre au niveau mondial l'attractivité de la France et puis au niveau européen, défendre les intérêts de la France dans le cadre des relations avec les pays tiers qui sont négociés directement par le commissaire au commerce.
Alors, il y a eu beaucoup d'événements récents. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, bien sûr, on va en parler dans le cours de cette émission. De l'autre côté de la Manche aussi, le Royaume-Uni est sorti du marché commun le 1er janvier dernier, acte final du Brexit. On a craint de grands embouteillages d'ailleurs aux douanes, malgré un accord commercial. Alors, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi finalement ? Il y a moins de trafic ?
Alors oui, il y a moins de trafic parce que beaucoup d'entreprises ont anticipé le Brexit et donc ont constitué des stocks avant la fin de l'année. Donc il faut rester très prudent et voir quand nous serons dans des flux plus réguliers, plus classiques, comment les choses se passent à la frontière. Et puis deuxièmement, on a préparé les choses. On a mis 3 ans à préparer, à investir, à recruter des douaniers, à investir dans des plateformes d'accueil des camions pour s'assurer que les contrôles nécessaires, à partir du moment où la Grande-Bretagne n'est plus dans le marché unique, et donc un pays tiers de l'Union européenne, de s'assurer que tous les contrôles douaniers, les contrôles phytosanitaires, sanitaires, les contrôles administratifs sont bien faits.
Et il y a eu déjà des mauvaises surprises hein, pour les clients de l'épicerie britannique Marks & Spencer. Eh bien, ils n'ont pas eu leur sandwich, hein, les rayons étaient vides. La faute au Brexit, disent les responsables du magasin. Alors, à qui la faute ? Qu'est-ce qui bloque ? Ce sont les douanes françaises, pour le coup, hyper préparées, qui n'ont pas donné leur feu vert ? Ou est-ce que le problème vient d'ailleurs ?
Sur les sandwichs de Marks & Spencer, je ne sais pas précisément, mais oui, il y aura des perturbations. C'est normal, et nous l'avions dit avant le vote des Britanniques, nous l'avons dit pendant les discussions avec les Britanniques, c'est pour ça que nous étions absolument déterminés à ce qu'il y ait un accord. Mais en même temps, notamment sur des produits périssables, il est légitime de vérifier que les normes, qui sont les normes européennes en matière sanitaire, en matière phytosanitaire, sont bien respectées pour que les consommateurs européens soient bien protégés par les normes européennes.
Alors c'est le retour du duty free avec les Britanniques. Les voyageurs britanniques sont autorisés à effectuer des achats hors taxes dans les aéroports et les ports, à Calais un magasin duty free a rouvert. Et d'ailleurs certains demandent la création de grandes zones franches douanières à l'échelle même de la ville entière, pourquoi pas, pour les entreprises, en réduisant d'ailleurs les formalités, plaide-t-il, de 20%.
Alors, à partir du moment où la Grande-Bretagne est un pays tiers, ils ont effectivement accès au duty free comme les autres pays tiers de l'Union européenne, sauf que il y a zéro tarif douanier, donc l'avantage du duty free est beaucoup moins important que quand il s'agit d'un pays qui a des tarifs douaniers très importants avec l'Union européenne. Pour autant, qu'il y ait des dispositifs adaptés à des visiteurs de pays tiers, oui, c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire. Pour autant, nous ne voulons pas que, à travers des ports francs ou à travers des pratiques déloyales, encore une fois, les Britanniques créent une forme de dumping fiscal, dumping social, dumping environnemental, utilisent des aides d'État qui viendraient donner des avantages à des entreprises, alors même que ces entreprises bénéficieraient finalement d'une entrée plus facile dans le marché unique que d'autres pays, avec ces zéro quotas et ces zéro barrières douanières qui sont au cœur de cet nouvel accord de relations futures avec les Britanniques.
Vous avez parlé d'un côté du dumping et de l'autre des aides d'État. Le modèle Singapour sur Tamise, c'est toujours un danger pour vous, ce modèle hyper libéral. Et en même temps, on voit bien que Boris Johnson, il veut absolument aider au maximum les entreprises britanniques avec la pandémie, c'est le retour des aides d'État. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'attitude du Premier ministre et des...
Dans l'accord, il y a des principes sur les aides d'État et sur les règles de normes, notamment pour pas qu'il y ait de divergence entre les normes européennes et les normes britanniques qui donneraient un avantage compétitif aux Britanniques avec un accès pourtant très ouvert au marché européen. Et donc, ces garanties sont dans l'accord. Et donc, aujourd'hui, nous sommes rassurés par rapport à ça. Après, il va falloir surveiller ça dans le temps. Il va falloir surveiller ça d'abord concrètement dans la rédaction définitive de l'accord. Il y a plusieurs mois de travail. Et puis ensuite, dans l'évolution du comportement des Britanniques sur le temps long, sous l'autorité de Boris Johnson ou plus tard sous d'autres gouvernements britanniques. C'est la raison pour laquelle il y a un système qui est prévu de suivi de cet accord. Et puis, il y a un système de règlement des différends avec un tribunal arbitral qui permettra aux Européens de démontrer ou de soumettre des cas de dévoiement de l'accord avec des possibilités d'avoir des mesures compensatoires en cas d'aide d'État, avoir des mesures de rééquilibrage si les normes sont trop divergentes par rapport à ce qu'est l'équilibre aujourd'hui, jusqu'à éventuellement mettre des tarifs douaniers en plus et ou remettre en cause complètement l'accord.
Assez bizarrement, le sort de la City, la grande place financière de Londres, n'a pas été réglé par cet accord commercial et on a vu lundi que la quasi-intégralité du commerce des actions européenne s'était déplacée sur le continent. Paris en a un peu bénéficié. Est-ce que c'est un mouvement à long terme ? Est-ce qu'on va récupérer finalement la City de Londres ?
Oui, je pense. Et c'est ce que d'ailleurs nous avions dit aux Britanniques. C'est que pour intégrer le marché unique, notamment sur les questions des services financiers, il faudrait être sur le sol du marché unique. C'est vrai que la place de Paris a des atouts considérables en termes d'attractivité. Il y a un certain nombre d'ailleurs d'acteurs de ces services financiers qui sont déjà installés en France ou ailleurs en Europe. Et nous pensons que ce mouvement va s'amplifier. Voilà. Vous savez, on peut pas tout avoir. On peut pas vouloir récupérer une souveraineté et puis ensuite vouloir exactement le même accès qu'au marché unique européen, comme l'ont les différents Européens, avec les quelques contraintes qu'il y a à la clé. Vous savez, c'est un choix historique qui est, à mon avis, le mauvais. Il est mauvais pour les Britanniques, il est mauvais pour les Européens. Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous avons l'affirmation de puissance économique et politique très forte. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, la Russie, nous sommes plus forts européens, réunis, unis, ensemble, que chacun chez soi et chacun pour soi, comme dirait Michel Barnier.
Le chef d'orchestre de cet accord, hein, tout le monde a salué ses efforts, sa maîtrise dans la façon dont ces négociations ont été menées. Vous aussi, j'imagine que vous saluez le travail qu'il a effectué. Et puis, aujourd'hui, il revient en France et il annonce qu'il se remet au service de sa famille politique, les Républicains, pour jouer éventuellement un rôle national. Est-ce que cela, vous le saluez aussi ou est-ce que ça vous inquiète ?
Il se met surtout, il est prêt à servir la France comme il l'a toujours fait, avec beaucoup de talent et beaucoup de responsabilité. J'ai admiré la façon, effectivement, avec laquelle il a organisé cette négociation pour le Brexit en maintenant l'unité des 27. C'était pas simple, mais il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de méthode, beaucoup de transparence, beaucoup de dialogue. Il a toutes ses qualités, Michel Barnier. Ouais, moi, qui se mettent au service de la France, c'est formidable. On a besoin de talents comme lui.
Alors, monsieur le ministre, on vient à la phase pandémie, bien sûr, comme d'autres pays européens. L'Allemagne, notre voisin, a durci ses restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cela alors que les critiques montent contre une campagne de vaccination, ça va vous parler, jugée trop lente en Allemagne. Les explications tout de suite de Noémie Roche.
Cette salle de spectacle a été reconvertie en centre de vaccination contre le coronavirus. Les injections s'enchaînent, l'organisation paraît bien rodée.
J'ai été vaccinée hier et je suis très contente. Je travaille dans une crèche et beaucoup de mes collègues vont aussi recevoir le vaccin.
Comme cette femme, plus de 264 000 personnels soignants et personnes âgées ont reçu une première dose de vaccin depuis le 27 décembre. Des chiffres bien plus élevés que chez certains voisins européens comme la France. Mais la campagne de vaccination se heurte désormais à des contraintes d'approvisionnement. Certains centres ont dû fermer faute de vaccins et les Länder regrettent une mauvaise répartition des doses. Le quotidien le plus lu d'Allemagne, Bild, accuse le gouvernement d'avoir trop compté sur l'Union européenne dans sa stratégie de vaccination et son approvisionnement. Une stratégie défendue par le porte-parole du gouvernement, Stefan Seiber.
Nous avons délibérément choisi une approche commune avec nos partenaires de l'Union européenne et nous sommes convaincus que c'était et que cela reste la bonne voie à suivre. La coopération et la cohésion européenne se sont avérées cruciales ces derniers mois, et en particulier pendant la pandémie.
En pleine flambée de l'épidémie, Berlin réfléchit aussi à la possibilité d'étendre au maximum la période recommandée de 3 semaines entre les 2 injections, pour permettre la vaccination d'un plus grand nombre de patients.
Franck Riester, d'après la presse allemande, la France a fait pression pour que la Commission achète aussi le vaccin français Sanofi associé à GSK, vaccin qui est en retard. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce qu'un protectionnisme européen n'est pas incompatible avec les nécessités, les besoins de la santé?
Écoutez, la France défendra toujours ses entreprises, mais vous savez, c'est important d'avoir en tête que cette pandémie, elle est historique. Elle a une portée inédite dans notre histoire récente. Elle perturbe toutes les sociétés, elle touche le monde entier. Beaucoup d'inconnus depuis le début de l'apparition de cette pandémie. Donc il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à la façon de régler la question, et à la fois d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, et en matière vaccinale tout particulièrement. D'abord, il faut reconnaître que nous avons réussi collectivement dans le monde entier à créer des vaccins en moins d'un an. Pour une épidémie, pour une maladie, pour un virus comme celui-là, c'est absolument là aussi inédit. Et donc c'est le savoir-faire de tous ces centres de recherche partout dans le monde qui est aujourd'hui à saluer. Ensuite, il faut de la méthode. Il faut de la méthode pour pouvoir mettre en place une stratégie de vaccination qui permette en fonction de l'arrivée des doses vaccinales, de vacciner celles et ceux qui en ont le plus besoin, tout de suite, parce que c'est là où il y a un risque le plus important, soit de contamination, soit de décès. Et puis ensuite, que cette stratégie de vaccination soit juste entre tous les territoires, entre toutes les populations. C'est une difficulté majeure. Vous voyez bien que ici en France, on est accusé par les régions de ne pas miser suffisamment sur les régions. En Allemagne, on dit, bah oui, mais on a peut-être trop misé sur les Länder.
Alors en France,
ce qu'il faut avoir en tête, c'est le bon choix d'avoir fait appel à l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de garanties que les vaccins qui sont validés sont les vaccins qui sont les bons vaccins, qui ont toutes les mesures prises pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires et que le vaccin est efficace. Et troisièmement, parce que si on est plus nombreux à acheter, on peut avoir des prix plus intéressants.
Franck
et donc, c'est important aussi en termes de finances publiques.
Sur ces accusations portées par les journaux allemands, vous ne les démentez pas. Il y a bien eu de la part de la France une volonté qu'on achète aussi du vaccin.
C'est pas moi qui m'occupe directement de l'achat de ces vaccins, c'est Agnès Pannier-Runacher et ses équipes, et puis bien sûr en lien avec le ministère de la Santé, Olivier Véran, mais pour autant, encore une fois, la France défendra toujours aussi ses intérêts et ses entreprises. Pour autant, ce qui est en premier lieu à prendre en compte, c'est la question sanitaire. Je pense que cette stratégie est la bonne.
On a compris ça, mais on se souvient aussi que le président Macron, il voulait une réforme de l'État pour le rendre plus agile, plus réactif. Aujourd'hui, on voit que cet État, il a l'air pas du tout capable d'être.
Mais moi, je suis pas aussi sévère avec vous.
Ça veut dire qu'en fait, cette réforme de l'État, elle a pas eu lieu. C'est un échec.
Si, nous transformons l'État depuis 3 ans, mais on peut pas régler toutes les problématiques de l'organisation de l'État. En 3 ans, il faut du temps, il faut des réformes. Mais moi, je suis moins sévère que celles et ceux qui viennent parfois sur les plateaux un jour dire qu'il faut absolument aller plus vite pour déconfiner. Le lendemain ou le surlendemain ou 3 jours après, qui viennent nous expliquer qu'il faut absolument aller plus vite pour confiner. Les mêmes. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le fact-checking et les vidéos, on peut vite comparer les positions des uns et des autres. S'ajoute à ça ceux qui sont candidats aux futures élections régionales, ceux qui sont candidats aux futures élections présidentielles. Et donc, on voit qu'il y a une utilisation parfois politique, voire politicienne, de ces sujets. Moi, je pense qu'il faut garder du calme, il faut de la méthode, faire confiance à notre administration. Parce que moi, je veux bien, ok, il y a des lourdeurs, ok, il y a la bureaucratie, il faut vraiment assouplir les choses. J'ai été maire pendant 10 ans, j'ai été chef d'entreprise, je sais absolument tout ça. Simplement, nous avons la chance en France d'avoir un État qui nous garantit de la sécurité, qui nous garantit de l'égalité. Et donc, nous avons d'abord et avant tout à remercier les femmes et les hommes de l'État qui aujourd'hui travaillent et depuis des mois maintenant à régler la question sanitaire.
On n'oublie pas que vous appartenez au ministère des Affaires étrangères. Et effectivement, l'actualité américaine nous a offert cette semaine un tour assez stupéfiant. D'un côté, la victoire des démocrates en Géorgie à l'élection sénatoriale. De l'autre, l'insurrection des Trumpistes au Capitole. Votre réaction, est-ce qu'on peut en tirer des conséquences pour les Européens?
Oui, écoutez, ce qu'on a vu, les images de mercredi soir sont absolument terribles. C'est un véritable problème démocratique qui se pose. Nous avons clairement là une menace sur les démocraties, en tout cas sur la démocratie américaine, et qui démontre bien quoi? Qui démontre, un, que les hommes et les femmes politiques ont une responsabilité dans leurs paroles et dans leurs actes. Souvent on dit, oh ben, il suffit pour faire de la politique de se caler sur ce que pensent les gens. Eh bien non, les politiques, ils influencent aussi ce que pensent les gens. Et donc nous avons, nous, responsables politiques, une responsabilité particulière quand nous nous exprimons. Et quand Donald Trump s'exprime en disant qu'il faut aller mettre la pression au Capitole, eh ben, ses supporters, ils prennent ça pour argent comptant, ils vont mettre pression au Capitole, ils rentrent dans le Capitole. Et puis deuxièmement, il y a les conséquences sur le temps long de cette façon aussi de faire la politique et ces débats qu'il peut y avoir, des débats publics simplistes, simplificateurs, populistes, qui fait qu'on veut aller caricaturer les positions, simplifier les positions, taper toujours sur ceux qui sont en responsabilité quand on veut prendre des responsabilités, au lieu de se mettre un tout petit peu à la place de ceux qui sont en charge de ces responsabilités. Et en France, il faut être prudent, parce que nous ne sommes jamais à l'abri d'avoir aussi demain des responsables politiques en responsabilité qui sont aussi populistes que peut l'être Donald Trump, avec les conséquences qu'on peut voir tant dans les comportements commerciaux des États-Unis que nous avons à subir, que parfois dans la façon dont ils peuvent mettre en danger la démocratie.
Alors question. Justement, Franck Riester, les producteurs de vin français sont très inquiets. Une nouvelle taxe de 25% qui a été imposée par l'administration Trump, est-ce qu'elle va vraiment être appliquée dans quelques jours? Et qu'est-ce que vous attendez sur ce dossier de ce conflit commercial qui n'en finit pas entre les États-Unis et l'Europe? Alors, qu'est-ce que vous attendez de
conflit,
l'administration Biden?
Il est le résultat, vous savez, de ce conflit entre Boeing et Airbus sur des aides du gouvernement américain pour Boeing et des gouvernements français, allemands et italiens et anglais pour Airbus. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut de la désescalade. Et donc, nous appelons les Américains à la désescalade. Pour autant, nous voulons être respectés. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les Américains taxent nos produits sans que nous taxions les leurs. À partir du moment où nous sommes autorisés à le faire par l'OMC. C'est pour ça qu'en fin d'année, nous avons pris la décision, effectivement, de réagir à la politique de surtaxe douanière des Américains en appliquant nos propres surtaxes sur Boeing et sur les produits américains, un certain nombre de produits américains. Aujourd'hui, enfin, le 30 décembre, il y a une décision qui a été prise, qui est une décision qui est absolument illégitime et illégale. D'un point de vue du commerce international par les États-Unis, nous contestons cette décision et donc nous sommes en train de voir de quelle manière nous pouvons réagir d'une façon très ferme avec nos partenaires européens. Mais nous voulons, là on est à 15 jours de l'entrée en fonction de l'administration Biden, ou peut-être moins, on va voir comment les choses vont évoluer là dans les jours qui viennent, et donc nous voulons être dans une démarche de dialogue avec l'administration Biden pour que tout de suite il nous envoie un signal fort de désescalade. Joe Biden a dit qu'il souhaitait renouer une relation transatlantique forte, à nouveau de partenariat, d'amitié entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais là, il a une belle opportunité de le démontrer en retirant les surtaxes douanières sur les produits Airbus et sur les autres produits français et européens. Et l'Europe a dit très clairement que si c'était le cas, elle retirerait elle aussi ses barrières douanières.
Franck Riester, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'information sur France 24 et sur RFI.